Attention les mecs, ça va jaser dans les chaumières. Nous avons laissé rentrer aujourd'hui, il est rentré par la cheminée, le Père Noël qui s'appelle Stéphane Poels, bonjour.
Bonjour Chocho, je suis rentré par la porte d'entrée, c'est bien la première fois d'ailleurs.
C'est bien la première fois, mais on a été distrait, le gardien était parti pisser. Comment ça va, mon Steph, d'abord au niveau de ta santé, parce que je sais que tu as connu des...
Ouais, ça va, on va pas se plaindre, hein, mais bon, c'est galère un peu, voilà. Opération voilà. Un peu compliquée du dos qui fait que j'ai une jambe atrophiée, mais... Voilà, comme disent mes amis de l'autre côté de la mer, Inch'Allah.
Inch'Allah. Donc, c'est des choses qui ont bougé. On ne va pas reparler de tous les épisodes.
Ça fait 4 ans.
Voilà, maintenant, ça fait 4 ans déjà.
4 ans déjà.
Bon anniversaire.
l'anniversaire. Je suis papa depuis, vous savez.
Oui, c'est ça. Et puis, on a envie de dire deux choses. On a envie de revenir parce que la Coupe du Monde est finie depuis presque un mois et demi. Ouais. Il y avait déjà une première question. Est-ce que toi qui travailles maintenant du côté d'Outre-Quiévrain, qu'on dit, tu travailles
en France,
l'équipe, RTL, pas mal de choses. Hein.
Ouais.
Donc, pourquoi nous les Belges on est tellement contents quand les Français ne gagnent pas?
Moi je pense que c'est vraiment, et d'ailleurs ça me fâche, c'est pas tous les Belges, mais il y a une grosse partie des Belges quand même, qui font, c'est les restes de ce fameux match France-Belgique.
Il n'y a pas déjà avant, donc
alors il y avait déjà un peu d'animosité, mais moi ça m'a fait rire parce que j'ai un de mes amis de ma petite ville Moucron, on est des postes frontières nous, qui me dit ouais, les Français, et je lui dis mais tu vas où en vacances? Et tu vas où faire tes courses? Parce que tu es à Auchan de l'autre côté de la frontière tous les semaines. Donc à un moment, si tu n'aimes pas les Français, il ne faut pas aller faire tes courses. En plus, je trouve que c'est une espèce de débilité, mais ça vient sur des comportements. Je pense que ce match-là contre les Français, l'on perd, ça a été la goutte d'eau qui fait que, et moi c'est ça qui me fâche, il n'y a pas eu de vol, hein. Les Français nous ont battus sur une phase arrêtée. Il y a eu deux bons gardiens de chaque côté. Courtois a quand même été en chercher aussi. Il marque sur une phase arrêtée. Clac, le dossier est fermé. On n'en parle plus. Je pense qu'il faudrait plus s'en vouloir à Martinez. Contre les Français, quand on mène 0-2 contre les Français en National League, qu'on arrive à perdre 3-2, il faut peut-être en vouloir à Martinez.
On va y arriver.
Non, mais je veux dire, il ne faut pas en vouloir aux Français. Hein.
Mais alors, du côté français aussi, parce qu'on voit qu'encore dans la presse française, un mois et demi après, on parle encore beaucoup de problèmes, Benzema. Donc, il y a une espèce d'incroyable dire à un moment, ils sont vice-champions du monde, ils auraient pu avoir, quand on voit l'histoire avec Platini, franchement, ils méritent 5-6 titres faciles, hein, les Français. Et c'était pas du vol à l'époque.
Non, ils font quelque chose de très bien, les Français, c'est que quand eux parlent de formation, il y a vraiment un suivi. Et quand je parle de suivi, c'est même en équipe nationale. Ils ont une batterie de joueurs, on l'a bien vu, Deschamps, ils commencent avec un 11 où il y a des mecs, Upamecano, qui jouaient jamais, quoi. Mais il l'avait, contrairement à Martinez, déjà utilisé dans quelques matchs, 2 ans avant. Il a préparé l'avenir. En fait, moi, ce que j'ai toujours reproché à Martinez, c'est qu'il n'a pas anticipé. Et il faut, dans le football, anticiper. Il a subi tout le temps. Subit. Quand il prend pas Luke Bakio et qu'il va foutre Mertens à 1m25 en pointe contre les Croates, il n'a pas anticipé. Quand il ose dire dans la dernière heure, j'ai pas de reproche à me faire, tous mes choix ont été bons, faut quand même oser, quoi.
Dans les 55, il prend pas un garçon comme Raskin.
Comment est-ce possible? Raskin n'est pas dans les 55, mais c'est quand même surréaliste, quoi.
Surréaliste. Alors, on a un nouvel entraîneur national. Hein. Il s'appelle Tedesco.
Oui.
On va aller voir dans Wikipédia.
C'est un peu ça.
Il était pâtissier avant et il a une épicerie depuis. Non, il a pas gagné grand-chose.
Mais non, mais le type, il n'a rien gagné. Il a gagné une coupe d'Allemagne. Alors, c'est le même truc qu'avec Martinez. Ils vont te dire, ouais, mais on donne la chance au produit. Mais donne la chance à un Belge. Alors, quand je vois ce que fait Will Steele avec Reims en France.
Avec un match nul incroyable. Je crois que
j'ai commenté le match dimanche.
Pas une défaite.
Extraordinaire depuis 14 matchs. Ouais. 13 matchs, pardon. Si c'est pour faire ça, donne la chance à Will Steele ou à un Belge ou à un autre. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que maintenant, on s'est, excusez-moi, fait de la masturbation intellectuelle à cause de Martinez, qu'on était numéro 1 au ranking FIFA, numéro 1, qui est classement Coca-Cola, hein, qui n'apporte rien. Et puis tout d'un coup, on doit faire le choix maintenant. Avec le statut que nous avons d'une bonne équipe internationale, on va prendre un mec, un inconnu. Il y avait des Pirlo, des Claude Puel, des Vaïd Alelodzic, et la liste est longue, avec des mecs qui ont de l'expérience.
Et
on va prendre un mec.
Et même des Prud'hommes.
Et même Michel Prud'hommes. Mais moi, Michel Prud'hommes, moi j'aurais rêvé d'avoir Michel Prud'hommes à la tête des Diables Rouges. On va nous prendre un truc et qu'ils ne viennent pas nous parler d'argent, parce qu'il faut arrêter de déconner. Martinez, il avait un énorme salaire, un des plus gros dans les top 5 en Europe. Donc il y a un moment, c'est encore une fois un choix. Et le temps qu'on a attendu pour cela, avec du lobby de certains joueurs, dont d'anciens qui voulaient Thierry Henry, qui était du mascarade aussi, hein, Thierry Henry. Il part, il revient.
Et le football gate aussi, on a l'impression que ça va terminer en pâte à choux, qu'il ne va rien se passer.
Il n'y aura
pas
de
jugement.
Quoi, non
à la Belge, oui, c'est ça.
Vous parlez à quelqu'un qui a eu la presse sur son dos avec 2 SMS qu'une personne a fait avec mon téléphone, ça a été l'affaire du siècle, on m'a tué, ruiné. Ok, très bien, bon, c'est comme ça, j'assume. même si je l'ai à travers la gorge. Et puis derrière, il y a des mecs qui ont un col blanc, qui ont détruit le football belge, qui ont pris des millions, ce que moi je n'ai pas, parce que je suis à zéro sur mon compte en banque, ce qui n'est pas grave, hein, je travaille comme tout le monde. Ils sont pétés de thunes, ils ont déboussolé complètement le football belge, parce que c'est vraiment le mot. Ils ont tronqué des défenses, tronqué des clubs, ils ont magouillé, il y a même un repenti, enfin c'est un... et ça va.
Bah, repenti, c'est pas plus mal, donc, non, bah, c'est un peu accouché de quelque chose.
Mais ça accouche de rien du tout, puisqu'on est dans une situation où il n'y a rien, et qu'on ne dise pas qu'il va avoir, hein, parce qu'on sent très bien que ça va accoucher d'une souris. Rappelez-vous de la Ferrié, hein. La Ferrié avait quand même certains.
Les Jeux de Paris à l'époque.
Mais il y avait déjà les mêmes protagonistes, puisque les Bayat étaient déjà cités à l'époque, enfin en tout cas l'un dans ce truc-là. Et moi, je vois bien que tout ça va terminer parce que nous, c'est l'État dans l'État en Belgique, c'est-à-dire que à la fédération, à la ligue, dans les clubs, tout le monde se tient, copinage d'agents.
Et la presse aussi, un peu quelque part.
Et la presse
qui dénonce ça, comme on dit, parce qu'ils ont peur des représailles.
Ils ont peur des représailles. Et donc, il y a un moment, il faut quand même que la justice tranche, mais ils ne vont pas trancher, donc ça va continuer. D'ailleurs, les agents incriminés, les personnes incriminées sont toujours bien actifs, hein, plus qu'actifs, quoi. Puisqu'ils ont des joueurs dans des grands clubs comme Anderlecht, je prends l'exemple de Treble et compagnie, quoi. Donc, à la Belge, quoi. Et en fait, on ne fait pas la part des choses, mais c'est un peu, je ne vais même pas parler que ce soit de politique et compagnie, je vois qu'on s'acharne en ce moment sur un député européen.
Ouais.
Bon, peut-être que ce monsieur...
Ouais, il y en a plusieurs. Hein,
mais le monsieur costaud...
Monsieur Marc Tarabella, hein,
voilà,
c'est moi qui l'ai dit.
Monsieur Tarabella, ok, il y a peut-être faute. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. On s'acharne sur ce monsieur. Et là, on est en train de le détruire. Qui est le petit maire, le bourgmestre d'une petite ville... qui aurait peut-être pris un billet. Ok, très bien. On est en train de le faire passer pour le plus grand des bandits du monde. Ce qui n'est peut-être pas le cas d'ailleurs. Hein. La présomption d'innocence, ça, ça existe. Et à côté de ça, il y a des mecs dans ce pays qui font tout et n'importe quoi. Mais tout et n'importe quoi. Bon, vous avez vu la liste des voyages qu'ont fait certains parlementaires, des mecs qui étaient déjà punis par la justice. Mais tout ça ne dérange rien. Quoi. C'est plus fort de détruire un Steph Wells qui est proche du peuple. Et c'est plus facile aussi, parce que moi, je suis une proie, je n'avais pas d'avocat, j'ai une petite famille, je ne fais pas partie d'un noyau, je ne représente pas le pognon, ni l'établishment, ni la politique. J'étais juste un petit animateur de télé. Et ça, c'est le pays. Quoi. C'est plus facile de détruire quelqu'un comme moi, et il y en a d'autres, hein, que de s'attaquer aux vrais fondamentaux et aux vrais gens qui font n'importe quoi dans ce pays.
Ouais, tu dérangeais parce que tu n'es pas journaliste, un excellent animateur, et comme on dit, donc, tu as bousculé l'établishment. Hein.
Mais l'établishment vient à la base. La genèse vient à Studio 1, c'est-à-dire que je commence à mettre des pétards, que le comte il vient fou, il panique, et que c'est à l'époque déjà Monsieur Bigot qui est le patron et qui dit, mais en France c'est installé la critique, en France des Stéphane Poel il y en a 200,
voilà.
Mais chez nous on ne peut rien dire, d'ailleurs même maintenant regardez bien sur Anderlecht, sur le Standard, sur Bruges, personne n'ose rien dire, alors que c'est des gestions calamiteuses, ce que fait Anderlecht c'est calamiteux, ce que fait le Standard, on ne sait pas.
Ben c'est un peu surprenant aussi. Donc on
va Raskin et Amala pour des cacahuètes.
Et voilà, donc vraiment, ils sont prêtés comme une comme un KDGB.
J'ai jamais vu ça, moi.
Jamais vu ça. Il y a des miracles en football, il existe. Hein. L'Union Saint-Gilloise est une belle histoire.
Mm-hmm.
Au football, on a parlé de Reims tout à l'heure avec la Mistil. Donc quand il y a la foi, et même le hockey, on viendra aussi, quand les mecs qui ont la foi, qui ont envie de faire un truc ensemble, ils y arrivent. Hein.
Quand t'as une bande de copains qui ont compris que le foot c'est pas que le pognon et c'est d'abord avant tout prendre la notion du plaisir et de jouer ensemble, parce que c'est ça hein, l'union. Moi je connais très bien Anthony Maurice, je vais même vous donner un scoop. Anthony quand il avait 17 ans, je l'ai ramené en test à Valenciennes, parce que je travaillais pour Valenciennes, hein, j'étais pas agent, et c'était Philippe Pontanier mon coach, hein, qui était coach au Standard et à Toulouse maintenant, et ça s'est quasiment fait, donc ça veut dire que comme troisième gardien. Ça veut dire qu'il avait déjà un potentiel de talent. J'ai rencontré son papa, c'est un gamin qui vient de la région du Luxembourg et qui est bien éduqué. Et il faut dire les choses, c'est-à-dire que c'est un gamin qui a les deux chaussures, tout bien, la tête bien dans les épaules, tout est bien. Et donc ça aide. Et quand on a une équipe comme l'Union et qu'on a ce genre de mec qui est gardien de l'équipe nationale du Luxembourg, qui n'est plus une petite équipe hein, qui commence à s'améliorer, eh bien dans ce vestiaire, on a des joueurs qui ont compris que l'Union, c'était une chance d'y être. Et pas, c'est-à-dire porter le maillot. Je pense que ça, c'était son centième match.
C'est une chance, pas une opportunité, un ascenseur.
Nous sommes d'accord.
Voilà.
Et donc, cette équipe dégage, avec un public aussi merveilleux.
L'Union. Il suffit de regarder les reportages qui ont été faits.
C'est extraordinaire.
Même Manana qui déteste le foot, va aller à l'Union, me casse les pieds.
Bien sûr, à l'Union. Parce que ça me fait penser, toi qui connais bien, ça me fait penser à l'Excelsior de Moucron. Quand j'ai
tous les petits clubs de province.
Que nous, on était un petit club et qui était. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'Union et l'Excelsior. Alors, c'est Bruxelles, mais nous, c'était une petite ville. Mais dans la même attitude, on boit des chopes, on mange une frite, on aime le foot, on n'est pas dans de la haine, on n'a pas des comportements nauséabonds. Et d'ailleurs, vous n'entendez pas de scandale sur l'Union. Ça se passe bien.
Ça se passe bien, mais quand même, bagarre, c'est géré à l'interne et ça les énerve.
Ouais.
On était un peu surpris par le départ de notre ami Felice, comme on s'attendait à continuer la belle aventure. Il a l'air de dire qu'il a été poussé dehors, en tous les cas.
Je ne pense pas.
Mais je n'en pense pas non plus.
Moi, je suis triste parce que c'est quelqu'un que j'aime humainement, mais qui ne peut fonctionner que dans un cadre où il y a de l'humain. Felice, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, ça se voit d'ailleurs. Et quand il tombe dans un panier de crabes comme l'été, quand il arrive à Anderlecht, où c'est déjà la guerre en interne et qui fait quoi, il ne peut pas se sentir bien.
Il ne peut pas se sentir dans un grand club, il avait déjà pris la leçon à Genk.
Oui, mais alors, ça c'est un autre truc. Est-ce qu'il est capable d'être dans un grand club? Moi je dis, oui, un grand club où il y a de l'humain, sauf qu'il n'y a plus d'humain dans des grands clubs. Hein, il n'y a plus d'humain. Donc je pense qu'il est voué à rester dans des clubs comme l'Union, comme Charleroi, dans des clubs où on a de l'empathie et qu'on aime encore les hommes et les femmes. Parce que quand on tombe dans des clubs comme Anderlecht, ben, on sent bien que c'est la guerre des postes. Mais je ne m'attaque pas qu'à Anderlecht. Je pense qu'on voit bien qu'au Standard, là, c'est très compliqué. Bruges, il y a deux mecs, Bavarag, et il y a un deuxième qui est Manhart qui décide tout. Et donc, un mec comme Felice, à un moment, je pense qu'il a besoin. C'est con, je vous dis, mais son sang italien, proximité avec son papa, c'est un mec du terroir. Hein, Felice, c'est un mec bien, hein, humainement.
Oui, et évidemment, on n'en doute pas.
Et c'est compliqué de se retrouver à un moment quand après l'entraînement, t'as personne pour parler. T'as personne pour parler de tes problèmes. C'est quand t'es coach, t'as aussi des problèmes. Et ben, c'est compliqué. Moi, je savais, honnêtement, quand il est italien, Anderlecht, je lui ai souhaité bonne chance, mais au fond de moi-même, je savais qu'elle allait se planter. Ouais, pas à cause de lui.
On le craignait un peu tous.
Ouais, tous.
Sep, donc 4 ans d'histoire, on s'en souvient maintenant. Livre, hein, qui est toujours pour aller relire, pour avoir la vérité, ouais. Que j'ai le plaisir de lire, on en a déjà parlé. Dans le contexte de ça, c'est quoi maintenant ton actualité, ton futur proche?
Moi, tu sais, vraiment, hein, quand je raconte ça, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses, j'ai eu mes histoires, je suis tombé au mauvais moment, j'ai eu cette blessure plus que sérieuse, qui me fait un handicap. J'ai perdu 2-3 copains, là, comme souvent, on perd des copains jeunes maintenant, bien malheureusement, cancer. Et... Moi, j'ai relativisé beaucoup de choses.
Une naissance aussi, hein.
Et j'ai eu la naissance de ma deuxième fille, ma petite Jade, et qui fait que j'ai un regard complètement différent maintenant du métier aussi, parce que le métier a beaucoup changé, hein, puisque le numérique, les réseaux sociaux arrivent, et que j'ai fait le deuil. De toute façon, en Belgique, j'étais blacklisté, donc j'ai fait la RTB et RTL, j'ai fait les deux. Vous savez, peut-être me la péter, mais j'ai fait des Aznavour, j'ai fait des choses qui font que moi, si je retravaille, je dois prendre la notion du plaisir. Et en France, je l'ai, puisque je travaille à TV5, à RTL France. C'est ça qui était très drôle, c'est que j'étais blacklisté à RTL Belgique parce que mon image n'était pas bonne, mais je travaillais dans la même maison. À l'époque, RTL France était la même maison, mais là, on me gardait, parce que mon avocat Sven Marie avait confirmé que je n'avais rien à voir avec tout ça. Enfin, soit, pour l'anecdote et pour répondre à la question, bah, j'ai décidé, je vais lancer ma chaîne YouTube qui va s'appeler Steph fait le taf, et on parlera de foot international, belge, bruxellois. On parlera de sport aussi, on va en reparler après avec le hockey, mais avec d'autres disciplines. Et pourquoi pas parler aussi, puisque de toute façon, je suis blacklisté, donc j'ai quand même la liberté de penser, la liberté de parler sur des choses qui me dérangent, que ça soit politique, que ça soit de la vie de tous les jours, les prix des sacs poubelles et autre chose, ou les pistes cyclables. Je pense que c'est important ce nouveau système, je trouve, de communication. Nos jeunes, moi j'ai une grande fille aussi de 24 ans qui ne regarde pas la télé.
De moins en moins, les jeunes regardent la télévision.
Les jeunes ne regardent plus la télé, donc ils vont chercher des podcasts, ils vont chercher des vidéos. Et donc je pense que je vais m'orienter vers cela en ayant la liberté de parler. Mais ce n'est pas pour forcément raconter des conneries, mais avec Marco Casto, qui est un vieux camarade.
Voilà, ce sera le Florent Pagny.
Voilà.
Belge, notre ami, c'était pas. On va terminer avec le hockey qui nous a ramené. Ouais. J'entendais ce matin. À RTL que les Red Lions s'est rentré bredouille.
Parce qu'un médaille d'argent, c'est bredouille.
C'est ça. Donc effectivement, ils étaient déçus, mais je veux dire que c'est bien que nous-mêmes, on a le goût du sang, comme on dit. Hein, donc ça veut dire qu'on a envie de gagner, on a envie qu'ils gagnent, et on était déçus et tristes qu'ils ne gagnent pas, ce qui est normal. Mais on c'était pas ça avant. Avant, on était lucky loser, on est déjà demi-finaliste, c'est très bien. Mais maintenant, on veut gagner. Voilà, c'est très bien.
Mais parce que ce sport... Alors moi, je suis bien sûr que je suis allé voir du hockey, que je regarde cette équipe, puisque j'ai souvent fraternisé avec Tom Bone, c'est quelqu'un que j'apprécie humainement, enfin j'aime bien le personnage, je trouve que c'est un bel athlète. Et Moi, je suis un peu outré de la manière qu'on considère ce sport. C'est-à-dire que on le met toujours.
C'est la RTB qui n'a pas diffusé.
Non, mais il n'y a pas que la RTB, parce que alors on va en reparler. Ça s'appelle le service public. Dans le service public, il y a public. Et donc le public, c'est nous. Et Monsieur, Madame, tout le monde, ben, peut-être qu'ils ont, pour les raisons que tu viens de dire, envie de supporter des Belges, parce que nous, on est quand même très fiers de. Bien quand il y a la petite gymnaste, moi, qui fait une médaille d'or, je suis content de la regarder. Et donc, on est Belge. Et là, ben, on peut pas regarder. On peut pas regarder parce que contrairement à ce que dit Monsieur Delahauteur, le patron des sports de la RTB, qui dit, oui, mais les droits étaient chez vous. Mais oui, mais t'as eu l'occasion de les acheter. C'est-à-dire que
ça se négocie.
Mais il fallait négocier. Et quand on est la RTB, si on s'est acheté la Coupe du Monde et l'Euro, on a bien un petit peu de sous pour acheter le hockey. Et donc maintenant, j'espère qu'ils vont pas faire les mêmes conneries pour les prochaines compétitions et qui vont vraiment se positionner, sachant quand même que RTL, idem. Moi, quand j'y étais, de nombreuses fois que j'ai dit à Monsieur Lotte et à Monsieur Delusine, dont son fils joue au hockey, en disant il faut faire du hockey. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pas assez sexy? Alors qu'ils viennent pas nous parler d'audience, hein, parce que excusez-moi, je connais quand même des audiences de ces chaînes-là minimalistes. Pour des émissions que je me tairais et pour des programmes dont je me tairais, la médiocrité.
Bah, Tribune 1, le studio.
Ils font 60 000.
60 000, c'est spectateur, ce qui est rien. Quoi.
Ce qui est plus rien. À l'époque, on tournait à 200. Et donc, des audiences faiblardes, mais même RTL. Moi, j'ai eu l'occasion de. On a fait des champions de boxe parce qu'on avait Méry. C'est bien gentil, mais si tu sais mettre la boxe avec M. Méry, tu sais aussi mettre le hockey. Moi, ça me fait rire parce que, à l'époque, avec un énorme respect, et je l'aime tellement, Jean-Michel Sèvres, mais ces mecs, les frères Sèvres, ont fait aimer à plein de petits garçons de jouer au ping. Eh bien, peut-être qu'il y a plein de petits garçons et de petites filles qui ont envie de jouer au hockey. Et puis, c'est un beau sport. Et puis, c'est un sport aussi, excusez-moi, mais les mecs, parce que nous, on parle d'image. Le hockey dégage une flamand ou allon, ils jouent ensemble, mais surtout dégage de l'intelligence. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des mecs qui s'expriment bien au micro, qui racontent pas de conneries, qui sont pas habillés comme des zozos et qui ont pas des tatouages plein. Excusez-moi, mais ça fait du bien. Alors, je vais pas faire de la ségrégation parce que je suis un mec moderne, je suis père de famille, mais ça fait du bien de voir ces mecs-là. Et je trouve que c'est une faute de la RTB ne pas avoir acheté les droits. Et RTL est une boîte privée, aurait pu y penser, parce que je vois que maintenant ils achètent tout au football, là, même le championnat espagnol, ouais, enfin, la coupe espagnole, enfin, ça devient la fête du slip, mais on engage des consultants, les machines et tout.
Calmez-vous.
Mais on sait pas prendre de hockey.
Stéphane Poels, ravi de te voir. Donc, dans le sens où, une belle aventure. Hein. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont en train de monter, que tout peut s'arrêter demain? Il y a plein de gens qui sont mis sous les projecteurs maintenant.
Je pense que j'en ai tellement vu passer, imaginez bien, la carrière que j'ai, que effectivement, tout peut s'arrêter, d'abord par la santé, bien malheureusement. Tout peut s'arrêter parce que on vous dégage. Parce que dans mon milieu, il n'y a aucun cœur, il n'y a aucune affinité. Et puis ça va vite, vous changez de patron et vous mettez un nouveau patron qui vient, qui estime que tu es mauvais, on met un autre. C'est-à-dire, c'est la loi de la société. L'humain, il n'y en a plus. Et donc, je dis de préparer ses arrières et puis surtout de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà. Parce que moi, je me suis retrouvé plus de travail, donc c'est une chose, enfermé chez moi, mais surtout plus de revenus financiers. Heureusement que j'avais mis un peu d'argent de côté, ça m'a coûté une blinde, avocat, machin, et la vie peut basculer. Et ce qui te fait tenir, c'est la famille, donc c'est pour ça que je dis, gardez bien vos proches, vos amis. Moi, ce qui m'a fait tenir, c'est d'être encadré par une femme qui m'aimait, parce que si c'était l'histoire du passé, on est venu me donner l'image du mec à bonne femme, et ça, c'est à mourir de rire, quoi. J'ai eu trois femmes dans ma vie, quoi, depuis un moment, et je suis de retour papa, donc je pense que ce qui fait tenir, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre à la maison, l'hygiène de vie, c'est important, ne pas tomber dans les excès, alcool, bouffe et compagnie, le sport. Bon, là, je suis un peu handicapé, mais je vais nager trois fois semaine, j'essaye de faire ce qu'il faut faire. Et puis, moi, j'ai 54 balais et surtout, je dis aux gens que, bon, en ce moment, il y en a qui sont dans la rue pour leur retraite. Alors, je ne parle pas comme un vieux, mais je pense qu'il faut préparer son avenir, de dire aussi de pouvoir terminer sa vie en paix avec soi-même, en paix avec les siens et surtout profiter des siens. Parce que moi, j'ai tout donné à RTL. J'ai donné ma vie à RTL, jour et nuit, 7 jours sur 7. J'ai gâché des moments avec ma fille, j'ai gâché des moments de couple, j'ai fait venir des mauvaises personnes dans ma vie parce que j'étais RTL. Parce que quand on est dans une boîte comme ça, on vous fait tout faire. Hein. Pub pour ci, pub pour ça, aller faire ci, aller faire ça. C'est de ma faute. Je pense qu'à un moment, il faut se ménager. Je dis aux gens, quel que soit votre job et votre entreprise, vous ne pouvez pas être otage. Vous pouvez vous investir pour votre boîte. Vous pouvez travailler pour votre boîte avec beaucoup de passion, parce que ça, le travail fait aussi partie de notre équilibre, mais vous ne tombez pas dans l'excès, parce que quand vous tombez dans l'excès, vous ne touchez plus le sol. Tout le monde me dit, t'avais attrapé le gros coup. Non, Je n'avais pas attrapé le gros coup. J'ai perdu le sens de mes valeurs. Ce n'est pas la même chose. Le gros coup, c'est quand au moment on commence à snober, à traiter tout le monde, ce que je n'ai jamais fait.
Non, c'est quelqu'un de très humain.
Mais j'ai perdu les valeurs, les miens, la vraie vie. Quoi.
Si tu as un message positif à dire à quelques personnes maintenant, qui t'écoutent en disant, tiens, voilà les personnes qui pour moi étaient essentielles, de leur dire merci.
Bah, ma femme d'abord, et mais surtout mes enfants, mais surtout ma grande fille et sa maman aussi, à qui je suis resté très proche. Non, mais moi je dis merci à quelques copains qui étaient là. Et ce n'est pas forcément tout le temps ce que l'on pense qui sont là. Ça c'est une vraie raison. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu as des grosses mères, tu penses qu'ils vont être là, ils ne sont pas là. Et tu as des gens que tu ne t'attends pas du tout. Après, j'ai mon vieux camarade, Michel Maton, enfin, j'en ai des autres. La liste, j'ai de la chance, hein. J'ai eu pas mal de copains. Et moi, ce qui est assez bizarre, c'est que la France ne m'a pas laissé tomber. C'est-à-dire, quand j'ai mes soucis, ils ont fait le travail, ils ont appelé mon avocat, ils ont fait la part des choses et j'ai continué à travailler grâce à Yves Bigot, à TV5, RTL France, à Christian Olivier. Donc j'ai pu continuer à bosser jusqu'à ce jour en France. Bien heureux parce que à un moment, rappelez-vous que la juge m'avait interdit de sortir du pays. Pendant 2 ans, je n'ai plus travaillé et ils m'ont pas laissé tomber. C'est qu'après cette période de 2 ans, ils m'ont retendu la main. Mais en Belgique, j'étais blacklisté, quoi, complètement. Blacklisté par tout ce microcosme de la presse écrite et la presse télévisuelle qui s'est dit, bon, Boels, moi, j'ai eu, il y a de ça 3 mois, une chaîne qui voulait m'engager et qui ne peut pas le faire parce que les journalistes du sport de ce journal ont fait un pacte des loups avec les rédacteurs en chef d'un autre journal en disant plus Poels. En fait, mon affaire, je prenais trop de place et ils ont utilisé ça pour me tuer. Vous savez, c'est pas grave, hein, la vie est longue parce qu'en fait, tout le monde est tué. Parce que, moi, j'ai un principe de la vie, j'ai jamais fonctionné. Pour exister, on ne tue pas les autres, Pierre. On doit exister par son talent, par son travail. Si on existe en faisant du mal aux autres, on le payera. La route tourne. C'est le mektoub, disent les Arabes.
Voilà,
c'est le
destin. Stéphane Poels, le philosophe.
Mais non, mais c'est comme ça, c'est l'effet de la vie.
Mais je suis content de t'entendre et te voir comme ça. Et en tous les cas, on te souhaite que du bon. Merci beaucoup, Steph. Et puis, Steph fait le taf.
Steph fait le taf et merci Thierry pour la musique.
Voilà, c'est vrai, Thierry. On l'appelle Hurlitzer entre nous.
D'accord, très très bien.
C'est le jukebox.
Merci, mais Steph fait le taf, quoi. Ouais. À bientôt.